J'ai reçu totalement ce que
tu as dit.
Bienvenue à Parole aux auditeurs, la CENI prévoit d'organiser les élections provinciales l'année prochaine. Précisément, fin janvier 2013, déclare la présidente de la CENI, c'était la semaine dernière, lors de son discours concernant la clôture de l'atelier d'évaluation à mi-parcours des activités de la CENI. Qu'en pensez-vous? Voilà la question qui est au centre de notre mission. Nous avons invité pour vous le professeur Jacques Joly, qui est vice-président de la CENI. Christine Poutou, Thierry Lamézou et Eric Sidiakala sont à la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Lumba est à la présentation.
L'influence de la culture dans l'éducation des jeunes filles, c'est le thème de la forum qui se tiendra le 26 et 27 avril à l'Université de Kinshasa. Étudiants, jeunes universitaires, sociologues, historiens, éducateurs et organisations de la société civile, tous débattront du rôle de la culture dans l'épanouissement des jeunes filles. L'influence de la culture dans l'éducation des jeunes filles, ce sera le 26 et 27 avril de 9h à 14h dans la salle de promotion de l'Université de Kinshasa avec la MONUSCO et le système des Nations Unies.
Aujourd'hui, nous allons parler du processus électoral. Si vous voulez participer à cette émission, vous avez trois possibilités. Composez le 081 890 69 69. Vous pouvez nous écrire à l'adresse internet ca@radiotapis.net et encore poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Et notre invité est déjà dans notre studio. Bonjour, professeur.
Bonjour, madame.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda chargé. Et vous allez nous accorder une cinquantaine de minutes parce que vers 11h, vous avez d'autres choses à faire. Donc, pendant ces cinquantaine de minutes, nous allons échanger avec les auditeurs. Sans plus tarder, je vous invite à suivre déjà une première série d'auditeurs. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent de l'annonce faite par le président de la CENI concernant l'organisation fin janvier 2013 des élections provinciales. Franklin est à Bukavu, Fabrice à Kinshasa. Nous commençons par Franklin. Bonjour Franklin.
Oui, bonjour Marie-Chantal Lumba, bonjour à tous les auditeurs de Radio Classique de France et de tout ça.
Vous avez la parole.
Je salue l'invité de votre émission, le vice-président de la CENI. J'ai trois petites préoccupations concernant les thèmes d'aujourd'hui. D'abord, je pense que la situation actuelle que traverse le pays doit être invitée à la CENI, parce que la CENI a mal organisé ses élections. Et si vous voyez, la population est presque démotivée d'aller voter parce qu'on se dit pourquoi aller voter et pour ça les élus sont déjà connus d'avance. Maintenant, j'ai trois petites questions. Comment notre pays fait toujours face à des difficultés financières? Parce que chaque fois le gouvernement évoque la question des finances. Est-ce que la CENI ne peut pas penser à couper les élections provinciales et urbaines pour que nous puissions avoir plus de moyens? Donc, organiser les élections urbaines en même temps que les élections législatives provinciales.
Dans les locales et les provinciales en même temps.
Oui. La deuxième question, parce que j'ai suivi le rapport de l'évaluation, je n'ai pas eu le temps de suivre là où la CENI a évoqué la question des démissions, parce que tout le monde est en train de demander la démission de la CENI. Mais nulle part, on a évoqué cette question. Alors, je voudrais poser la question à notre invité. Lui, personnellement, comment il a accueilli ce message? Est-ce qu'il est prêt lui-même à démissionner parce qu'on est en train d'accuser tout le monde d'avoir mal organisé les élections?
Merci Franklin de votre point de vue et de vos préoccupations. Nous prenons Fabrice qui se trouve ici à Kinshasa. Bonjour Fabrice.
Bonjour madame.
Oui, vous avez la parole.
Oui madame, juste je salue d'abord l'invité sur le plateau.
Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour monsieur le professeur. Plus juste, j'avais une question à poser parce que avant que je pose la question, Il y avait une conférence que le professeur avait organisée à l'université pédagogique. J'avais eu à lui poser cette question. Qu'est-ce qui avait fait à ce que la CI ne puisse pas organiser les élections locales et municipales? Je pense qu'à cette question, je n'avais pas eu une réponse à cette question.
Et vous faites allusion à l'organisation du premier cycle électoral?
Oui, du premier cycle-là, c'était encore en 2006. Lorsque j'étais venu dans une conférence à l'Université pédagogique nationale.
Mm-hmm.
Oui. Maintenant, je suis avec cette question ici. Qu'est-ce qui prouve que les élections provinciales auront lieu au mois de janvier? Tandis que le gouvernement montre déjà que, sur le plan financier, il n'y a pas d'argent.
Mm-hmm.
Le partenaire international qui devait financer ces élections, déclare la démission de membres du bureau. Alors, face à toutes ces réactions-là, comment est-ce que le professeur peut nous rassurer qu'on doit organiser les élections au mois de janvier?
Donc, voilà vos préoccupations. Fabrice, vous êtes ici à Kinshasa. Je vous rappelle nos contacts, le 081-890-6969. 081-890-6969, écrire à l'adresse internet pa@radiocatif.net ou encore poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Professeur, nos deux premiers auditeurs, les défis à relever, bien sûr, il y a le temps qui est toujours qui court, parce que même lorsque vous avez organisé les élections de 2011, lorsqu'on a annoncé le calendrier de 2011, il restait à peu près 7 à 8 mois avant l'organisation. La même chose actuellement, on annonce des élections en janvier 2013, il reste près de 8 mois pour l'organisation, donc il y a toujours ce facteur temps qui on a l'impression en votre défaveur. Il y a aussi une question de budget qui a été relevée par nos auditeurs et aussi question de voir comment redonner la confiance aux électeurs. Quelle est votre réaction avant de passer à la question de démission que soulèvent nos deux premiers auditeurs?
Merci beaucoup Marie Chantal. Je remercie d'abord les auditeurs pour leurs questions. Je préfère le prendre chacun avec ses préoccupations. D'abord, Franck de Bukavu, qui estime que la situation doit être imputée à la CENI. Oui, je crois que la situation actuelle, c'est une situation créée par les élections. Mais il ne faut pas avoir une analyse conjoncturelle, une analyse émotive, une analyse événementielle. Il faut avoir une analyse structurelle. Pourquoi les élections se sont passées dans ces conditions? Et nous avons tous dit que c'est à la suite de la contrainte du temps, et on verra d'autres contraintes, notamment les contraintes politiques. Les élections en elles-mêmes ne constituent pas la démocratie. Je suis heureux que hier les amis de la ZADO aient présenté leur rapport et on montre qu'il y a des difficultés d'ancrage de notre démocratie. Et les élections entrent dans cette difficulté. Lorsque les acteurs politiques n'ont pas la même vision de la gouvernance de l'État, on a vu que, on a eu une révision constitutionnelle qui n'avait pas fait l'unanimité. Deux, parmi les acteurs politiques, il y a eu une partie qui n'avait pas accepté le processus électoral. Il y avait aussi, dans la mise en place de l'institution CENI elle-même, il y a eu trop de tiraillements, de sorte que depuis 2006, date de la promulgation de la Constitution, qui prévoyait dans ses dispositions que la CENI devenait caduque de l'installation de l'Assemblée nationale, eh bien, on n'a pas fait cela. La CENI a continué à travailler jusqu'à au moins, n'est-ce pas,
de mars à peu près.
Non, d'abord, la loi organique de la CENI est sortie en juillet 2010, et dans un état, vous vous rappelez, j'étais au Sénat, des contradictions entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et la CENI s'est mise en place le 3 mars 2011. Prendre une année pour essayer de faire la transition et continuer le processus. C'est un facteur, comme je l'ai toujours dit, déstructurant. Mais quand il en tient, je crois que la CENI a essayé de faire son travail. Alors, lorsque Franklin dit qu'il y a la population qui ne se retrouve pas dans les élus, je voudrais prendre le cas de Bukavu. Lorsque un gouverneur échoue aux élections, Lorsque le monde de l'opposition sont en tête, est-ce que le cas de Bukavu, est-ce que ça ne s'appelle pas Jean-Pierre? Parce qu'il ne faut pas tomber dans la manipulation et dans le grossissement.
Dans la globalisation.
Voilà, il y a eu des problèmes. Sur les 64 800 bureaux, nous avons eu 1% de problèmes. Au moins 480 bureaux de vote. On ne veut pas généraliser. Alors, en ce qui concerne les finances, je suis d'accord avec lui qu'on aurait pu faire. Il propose qu'on puisse coupler les élections locales et provinciales. L'une des difficultés des élections de 2011, c'était le couplage des élections législatives et présidentielles dans un délai très court et dans un contexte politique qui n'avait pas de consensus par rapport en 2006. Vous savez que lors de la désignation des membres du bureau de vote, donc le bureau de la CENI, il y a une partie de l'opposition extra-parlementaire qui ne s'était pas retrouvée dans ces bureaux.
Et même la société civile.
Et la société civile. Alors, ces deux corps ont pris en étant le bureau dès son installation jusqu'à la fin. Donc, on pouvait avoir que des résultats qui ont contesté.
Je peux revenir à ce fait dit concernant la transparence même de ce processus. C'est vrai que vous avez dit que ce n'est qu'à 1% où il y a eu autant d'irrégularités, mais le problème, c'est aussi les PV, parce qu'il y a des PV, des procès verbaux, qui n'ont jusqu'à présent jamais été retrouvés. Alors, le manque de transparence, aussi, ça permet de lui dire qu'il y a des personnes qui ont été élues et qui sont actuellement députés nationaux, mais qui ne le devaient pas. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause
de ça? Là aussi, il faut faire attention à des extrapolations rapides. Lorsque nous avons eu notre atelier, nous avons eu à voir les amis de la CENCO, peut-être de la commission de justice et paix, qui est une de missions qui a déployé plus de 30 000 observateurs. Cette mission nous a dit que 90% des résultats étaient affichés, plus de 90% étaient affichés, et ça concordait avec le PV qu'avait le témoin. La question essentielle, c'est que, un, les partis politiques n'avaient pas de témoins formés. Ils ramassaient un fusain pour les envoyer, alors que l'observation ou le suivi d'une élection exige quand même une certaine information minimum. Donc, au niveau du PV, le PV était donné. Et le PV était affiché. Mais là aussi, un problème de sensibilisation et d'éducation. Lorsqu'on affiche le PV et que vous venez arracher cela, et le PV, on doit le remettre en 5 exemplaires. C'est ce que demande la loi. Vous avez 450 partis politiques dans ce pays. Vous avez 350 témoins dans le bureau de vote. Vous leur demandez d'aller, n'est-ce pas, photocopier le PV et se distribuer. Donc, la loi impose qu'on fasse un PV avec 5 copies qui sont remises aux membres du bureau de parti politique. Mais si les témoins ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, et lorsqu'on affiche pour que chacun puisse copier, il y a des problèmes. Il est un fait, et nous l'avons reconnu, qu'à Kinshasa notamment, il y a eu perte de PV, 2000 plus de résultats pour l'ensemble du territoire. Mais quelle est la cause de cela? C'est la violence. La violence et, il faut l'avouer aussi, la situation de ramassage qui s'était dans la confusion et tout le monde est allé par exemple pour Kinshasa à la fois de manière chaotique et face à la violence, face à la pluie, malheureusement, les agents ont été pour certains irresponsables qui ont abandonné les copies. Aujourd'hui, au niveau de la CENI, nous avons plus ou moins 60 000 dollars parce qu'on paye lorsqu'on remet le résultat. Ce qui fait qu'on a perdu 2 000 copies, ce qui fait plus ou moins 850 000 voix, mais cela ne change pas la situation globale et il faut que les amis évitent de faire l'extrapolation. Je voudrais que chacun parle de sa vie et qu'ils disent qu'il y a tel problème, à ce moment-là, on peut bien discuter.
Nous revenons au budget.
Alors, en ce qui concerne le budget, de la CENI est établi en août 2010 à 715 millions de dollars. Et lorsque nous sommes arrivés et que la classe politique nous a imposé l'organisation des élections dans ce qu'on appelait à l'époque les délais constitutionnels, alors que le calendrier de l'abbé Malumalu était contesté, l'abbé Malumalu avait proposé un calendrier qui prévoyait l'organisation des élections présidentielles au mois de février-mars 2012 et les élections législatives en juillet 2012. La classe politique avait estimé qu'il s'agissait là d'une prolongation clandestine du mandat du président de la République et des députés. Donc il fallait organiser les élections dans les délais. Donc les délais devenaient contraignants et à partir de ce moment-là, il fallait des ajouts budgétaires. Et ce qui a fait que le budget a évolué. Bon, maintenant, organiser les élections locales et les élections provinciales, ça va être trop lourd. Parce que pour les élections provinciales, le budget est estimé aujourd'hui à plus ou moins 170 millions de dollars et les élections locales et municipales à 226 millions de dollars. Or, le gouvernement, qui a assumé déjà la lourde tâche de 350 millions de la discussion communautaire présidentielle, demande aujourd'hui que la question soit discutée au niveau des partenaires et du gouvernement.
Mais le gouvernement lui-même n'a pas de budget jusqu'à présent. La voilà. Budget est au mois de septembre. C'est rarement que vous avez été parlementaire que le budget soit adopté au niveau du Parlement avant janvier. Et déjà, vous prévoyez fin janvier, comment ça va se passer? Et puis aussi cette question des partenaires qui ont posé quelques préalables pour financer ces élections, toutes ces difficultés-là, comment rassurer?
C'est là où je voudrais que nous puissions, chaque fois qu'on analyse les phénomènes électoraux, avoir une vision globale. La CENI, c'est vrai, est l'organe technique d'organisation des élections, mais l'organisation des élections obéit à plusieurs paramètres. Je vous ai parlé des paramètres politiques. Si les acteurs ne sont pas d'accord, les paramètres juridiques, il faut mettre le texte à temps. Lorsque vous donnez une loi électorale au mois de juillet 2011, et que la CENI est là depuis mars 2011, chacun doit assumer sa responsabilité. Et vous posez la question du budget. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore le budget. Donc, nous sommes en négociation, n'est-ce pas, à l'air libre avec le ministère des Finances, et le ministre est devenu Premier ministre, pour, n'est-ce pas, faire le cadrage budgétaire. Et les discussions sont suffisamment avancées. Donc, et c'est là un des points sur lesquels nous avons souligné au niveau de l'évaluation. Il ne suffit pas d'adopter le budget. Il faut encore l'exécuter suivant
le bilan de financement.
Lorsque vous dites le budget, oui, nous avons donné à la CENI les moyens. Mais vous avez donné ça comment? Le matin, vous donnez 20 millions, on vous dit merci, c'est la malette. Deux jours après, on revient vous donner 5 millions. On n'organise pas une élection comme on va au marché, au petit marché, pour acheter du riz ou du sel. Il faut une planification stratégique. Il faut une planification opérationnelle, on fait telle opération à tel moment, il faut une planification financière parce qu'il faut passer les commandes. Là, on va avoir la difficulté qu'on a eue, c'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas l'argent sous le moment, eh bien, vous êtes obligé de trouver du coup de faire la navigation à vue, avec toutes les conséquences, n'est-ce pas, qu'on déplore aujourd'hui.
Une dernière préoccupation avant d'écouter la deuxième série d'auditeurs. Les deux auditeurs sont venus sur la démission du bureau de la CENI, la restructuration de ce bureau. Comment vous réagissez?
Il y a deux problèmes. La question de la démission, c'est une question existentielle de conscience. Est-ce que c'est responsable, chacun apprécie, qu'aujourd'hui, nous puissions dire, nous larguons le bateau en pleine mer et qu'on puisse naviguer vers des éléments inconnus? En termes de responsabilité, je crois que ça serait plus dangereux et envoyer encore ce pays, n'est-ce pas, dans le méandre de l'aventure. Mais il y a une question fondamentale. Est-ce que la structure du bureau telle qu'il a été, elle a été définie, pas par le bureau, mais par les législateurs, en termes de quatre membres de l'opposition, de la majorité de l'opposition. Est-ce que cette structure-là est suffisamment capable d'être représentative et d'assurer?
Elle respecte les forces actuellement politiques.
Même à ce côté les forces politiques. Revenons sur ce point-là. Si on avait mis en place la CENI en 2006, comme prévoyait la Constitution, on allait avoir le porte politique du moment qui allait organiser les élections jusqu'en 2011. Et en 2011, on a 5 ans après, ou 6 ans, en 2012, on était en train de mettre en place une nouvelle CENI conforme à, n'est-ce pas, au paysage politique actuel. Mais on a mis la CENI en place au mois de mars 2011. Et on trouve maintenant en dichotomie. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question doit être posée aux législateurs et je crois que nous allons avoir, il y a dans notre règlement de l'intérieur, il est prévu que au mois, à la session de mars, la CENI a présenté le bilan de son travail annuel à l'Assemblée, et je crois que c'est le lieu où poser cette question. Et pourquoi nous avons demandé à nos amis de, qui s'agitent, non, qu'ils fassent leur pétition, qu'ils amènent
ça à la société civile,
oui, la nouvelle ou l'ancienne, je ne sais pas, qu'ils aillent déposer leur pétition à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale va soit élaborer une nouvelle loi, parce que le droit d'initiative législative appartient aux députés, aux sénateurs et au gouvernement. La CENI n'a pas le pouvoir d'initiative législative. Donc, à cette question, je voudrais rassurer les amis que nous sommes serein. Dès lors que la dimension normative aura été prise en compte, si on dit qu'on réfère, on restructure la CENI pour en tout faire entrer la société civile qu'on disait politisée, mais qui est devenue aujourd'hui civilisée, ben, nous sommes prêts à faire avec ce qu'on va décider.
Nous allons revenir sur ces conférences qu'il faudrait à nouveau gagner des électeurs. C'est la question qu'a posée Fabrice. Mais d'abord, écoutons Charles de Kinshasa, Mavé de Kananga et Ernest de Machadi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Charles.
Bonjour Marie Chantal.
Nous vous écoutons.
Marie, c'est comme si les ridicules ne tuent pas dans notre pays. La CENI continue toujours à enterrer notre pays jusqu'à aujourd'hui.
Bon, mais qu'est-ce que vous pensez de l'annonce de l'organisation des élections fin janvier 2013?
Voilà, ce sont les questions que je devais poser au professeur Jacques Ndioliatek, qui est constitutionnaliste congolais.
Oui, quelle est la question?
Quelles sont les leçons à tirer tant juridiques et sociologiques sur la décision annoncée par la CENI?
Donc vous voulez savoir quelles sont les leçons à tirer des élections passées ou bien de cette annonce?
Cette annonce sur les plans sociologiques et juridiques, quelles sont les leçons à tirer?
Au regard du contexte politique actuel.
Merci beaucoup.
Merci Charles de Kinshasa. Mavé de Kananga, bonjour.
Bonjour madame, Marie Chantal Lumba, bonjour à notre invité professeur Ngoli.
Oui, vous avez la parole.
Merci madame Marie Chantal Lumba. C'est trop regrettable et déplorable même de parler toujours des élections à RDC. Premièrement, je remercie monsieur Ngoli, comme il est invité de notre radio Kapi, tant pas demandé. Je crois qu'aujourd'hui nous parlons de ces rapports, ou soit de l'annonce des élections qui sont prévues pour le 1er janvier, je ne sais pas, janvier 2013.
13 janvier 2013, on n'a pas de date.
D'accord. Jouer carte sur table, c'est-à-dire la CENI doit prendre conscience de tout ce qui se sont passés, les élections, soit les processus électoraux passés. Aujourd'hui, si nous sommes en train de revenir tout sur, en fait, je voulais dire, sur le même cas, je voudrais demander au professeur Ndioli de ne pas se casser des têtes, ou soit de ne pas avoir beaucoup de perte d'énergie, avoir ou soit programmer les élections 2013 qui n'ont rien à voir avec ce que la population congolaise attend. Moi, je voudrais poser ou soit demander à la CENI, notamment à des personnalités que j'inspecte bien, Pasteur Mulunda et son adjoint, vice-président Ndioli, de procéder carrément à la nomination et non jamais organiser les élections, puisque nous n'avons pas confiance à ces élections. Nous sommes là, organiser toujours les élections dans notre pays pendant qu'il n'y a pas la transparence.
Merci,
il y a pas.
Merci
madame.
En vous écoutant, vous pensez que les élections n'ont plus leur raison d'être et que vous préférez qu'on puisse désigner. N'oublions pas que ce mot pour désigner nos autorités, nous l'avons voté par référendum, donc c'est reconnu. Mais vous estimez, au regard de ce que vous avez vécu au cours des élections de novembre 2011, ne plus passer, ne plus organiser des élections parce que vous estimez que ça ne sert à rien. Merci Mavé de Kananga de votre point de vue. Ernest de Machadi, bonjour.
Bonjour, moi Chantal.
Nous vous écoutons, Ernest.
Merci pour la parole et pour les antennes de l'Ocafie. Je suis encore pour la deuxième fois. J'interviens avec le professeur Jacques Ndioli à l'antenne. J'avais dit que la CENI en soi comme institution a été mise en place pour appuyer le processus de la démocratisation de notre pays.
en tant que telle, la CENI a l'obligation d'exiger à l'Assemblée nationale les textes lui permettant de bien faire son travail. C'est pour ça que en fait, nous avons besoin des honnêtes hommes, des intellectuels, vraiment équilibrés pour gérer cette institution technique, pour asseoir notre démocratie dans ce pays. Mais curieusement, comme Charles vient de dire, c'est comme si le ridicule n'était pas dans ce pays. Aujourd'hui, les professeurs d'aujourd'hui, il y a autant d'étudiants sous sa responsabilité, défend l'organisation des élections en janvier 2013, pendant que nous savons que la CENI a un litige des élections 2006 et un litige de cette année-ci. Donc, pour moi, ces élections annoncées n'auront pas un effet positif sur le terrain parce que la population est déçue dans le sens que lorsqu'on fait des sondages sur le terrain, beaucoup de gens se disent, nous n'allons plus voter dans ce pays. Mmh. Raison pour laquelle le président de passer avec moi dit, il faut pas les nommer. Il faut une évaluation critique pour aller vers la population, pour savoir pourquoi la population a des réserves sur les élections prochaines. C'est pour cette raison que l'analyse critique, l'évaluation de la CENI doit tenir compte de cette volonté populaire. Or, la CENI n'a pas passé à 10, la formation en cascade des membres de l'élection travaillée. Mais même si c'est en cascade, les élections étaient bien déroulées dans le bureau de vote, bien afficher les résultats, mais c'est au niveau de l'équipération de cette pièce technique pour la conversion nationale. C'est là où les choses, où la série est influée ou a dérangé pour la volonté populaire. Nous pensons, au niveau du Bas-Congo, il ne sert à rien de courir, il faut partir pour de meilleures élections pour que la série arrive à faire voter des gens qui vont accepter leurs défaites ou qui seront dans la joie de reconnaître la victoire des autres.
Merci Ernest de Matadi. Nous avons Jérôme Bosco, il est président de la Ligne Élite. Bonjour Jérôme Bosco.
Bonjour madame.
Membre de la société civile, aujourd'hui on a annoncé les élections provinciales 5 janvier 2013. Qu'en pensez-vous?
Oui, vous savez, avant de répondre à votre préoccupation, je tiens à saluer M. le vice-président professeur Gertrude Ndioli, qui est l'invité principal de cette émission. Mm-hmm. Et nous avons, nous, au niveau de la société civile, avant de parler de calendrier, nous avons dit que c'était une bonne chose que la Commission électorale nationale indépendante, en tant que pouvoir organisateur des élections, et aussi en tant que partie prenante au procès électoral, devait faire une évaluation. Et nous avons salué l'initiative de l'évaluation faite par la CENI, parce que c'est une façon aussi d'inculquer la culture des redevabilités vis-à-vis de la population, le rendre compte de comment la CENI a pu gérer ces élections. Et aussi, nous avons dit que si nous sommes arrivés aujourd'hui à des contestations, parce que ces élections étaient précédées d'un problème, le consensus politique était déjà affaibli, et qu'on avait tout intérêt à consolider. Et ça n'a pas été le cas. Il y a un autre constat avant d'arriver au calendrier, madame, c'est les déficiences techniques et logistiques des élections de novembre 2011. C'était inhérent au manque du temps et du calendrier contraignant. Voilà deux facteurs qui entrent en jeu, qui ont fait qu'il y ait des contestations. Si aujourd'hui on donne le calendrier, il faut voir aussi dans quel contexte va plus jamais suivi. La CENI a clôturé son atelier d'évaluation auquel la société civile, la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, était invitée à contribuer. Et nous avons dit, le professeur l'a si bien dit, que le calendrier est de nous donner au mois de janvier, mais à condition que le paramètre qu'on puisse continuer à maîtriser, tous les paramètres liés à l'organisation de ce scrutin. Mm-hmm. Pour nous, le calendrier qui est donné par la CENI, c'est une bonne chose. C'est un outil de planification de la gouvernance électorale. C'est un outil qui donne les idées à toutes les parties prenantes pour voir comment ils peuvent être en mesure de la mobilisation de moyens financiers, de moyens et ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous disons que ce processus, quand on organise les élections, il ne faut pas dire parce qu'on a organisé les mauvaises ou les bonnes, non, il faut avoir des perspectives. Comment seront les élections de demain? Et c'est ça le problème. Parce que les élections de demain, et le processus électoral, le reste du processus électoral, n'a plus la confiance de la population. Il faut s'investir dans la reconstruction de cette confiance, dans le choix de la population, dans le choix de toutes les parties prenantes, pour que nous puissions continuer à crédibiliser le reste du processus électoral. Mmh. Parce que moi, je vous parle du calendrier, j'avais apprécié un interventeur devant le média du professeur, le vice-président, monsieur le vice-président, professeur Jacques, qui a parlé, il a dit, nous sommes au contraire, ce calendrier pourrait être effectif si on parvenait à tenir compte de ces paramètres liés à l'organisation des élections.
Mm-hmm.
En nous disant, à ce point, l'organisation des élections dans notre pays, du monde qui reste, c'est un problème purement technique, mais il y a aussi un problème politique. Ce fonds politique, nous avons intérêt à reconstruire le consensus politique. Il n'y a pas plusieurs moyens. Nous avons fait notre atelier aussi à ce qui est en cas de partie prenante. Nous avons épargné cet aspect politique pour que les uns et les autres puissent continuer à reconstruire le consensus politique. Sinon, le reste, le calendrier de la proposition faite par la CENI, en date pour la fin des élections, si tel est le cas, s'il n'y a pas un consensus politique fort, reconstruit, et on a des doutes à ce que ce calendrier puisse être respecté. Pour nous, au niveau de l'État, nous allons prendre le temps d'étudier la faisabilité de ces élections en janvier 2013, est-ce que la proposition du calendrier électoral proposée par la CENI est-elle encore réaliste ou non réaliste, et nous ferons une analyse là-dessus.
Merci beaucoup, M. Jérôme Gonceau. Je rappelle que vous êtes président de la ligne élite. Pour vous, vous poserez qu'on puisse trouver d'abord une solution à travers un consensus politique, mais aussi les questions techniques qui conditionnent en fait l'organisation des élections en fin janvier 2013.
Parole aux auditeurs.
Le temps d'écouter deux autres auditeurs. Monsieur Gaston Moussemina, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes député national, membre d'un parti politique à tendance de la majorité, vous êtes même du PPRD, vous avez été réélu. Aujourd'hui, la CENI entend organiser les élections fin janvier 2013 et provinciales. Quel est votre point de vue au regard de ce qui a été dit par votre prédécesseur Jérôme Gonceau? Et vous avez aussi eu l'occasion de suivre d'autres auditeurs qui parlent d'un manque de confiance et tout ce qu'il y a au regard du contexte politique actuel.
Je pense que madame, les responsables de la CENI ont pris conscience de leurs responsabilités en organisant une évaluation claire de l'organisation des élections passées. Il s'avère, au regard de ces irrégularités, qu'il faut retrouver la confiance entre l'institution CENI et les partenaires politiques ainsi que la population, et surtout que la CENI n'est qu'une institution de la République, c'est-à-dire que son fonctionnement dépend totalement du budget de l'État. À ce jour, tout le monde le sait, il n'y a pas encore un gouvernement capable de préparer ou de proposer un projet de budget au niveau de l'Assemblée. Tout cela fait que on ne peut plus travailler dans la précipitation comme on l'a fait le 28 novembre pour les élections passées. Il est normal qu'on prenne tout le temps. Ce pays nous appartient, nous ne pouvons plus, nous n'accepterons plus que nous revenions aux irrégularités et aux actions que nous avons connu lors de l'élection. Nous pensons qu'il a tenu en toute responsabilité, a pris conscience que le peuple croit à cette institution. Il faudra que la CENI aussi s'investisse pour crédibiliser son action. Donc, nous sommes tout à fait d'accord
avec tout ce que vous proposez. Qu'est-ce qui peut être fait pour que la CENI puisse crédibiliser son action?
C'est la bonne organisation, c'est-à-dire qu'il faut respecter les facteurs temps. Madame, le temps, c'est un facteur important pour toute organisation. Nous avons travaillé dans une précipitation inimaginable. Il faut que la CENI prenne tout le temps nécessaire pour discuter avec tous les partenaires, pour arranger ses services de manière responsable, avec les moyens, bien sûr, dont la CENI a besoin pour que les élections se tiennent normalement. Donc, il faut laisser le temps au temps. Il faut surtout redonner la confiance, comme mon professeur l'a dit, c'est important, parce que les élections, c'est capital pour un pays qui préconise la démocratie comme mode de fonctionnement.
Merci beaucoup, M. Gaston Moussemina. Nous allons donner la parole à Cosmas de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, Cosmas, vous avez la parole.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je voudrais d'abord dire à ces gens qui viennent à peine d'intervenir, notre député, écoutez, ce n'est pas comme ça qu'on peut diriger les pays. Quand il y a encore des problèmes, il faut les dire. Il vient de dire que non, la CENI avait organisé de bonnes élections à la fin de l'année 2011.
Mais il y a des bonnes élections.
Mais pourquoi encore la CENI s'est fourni l'effort pour saisir la crédibilité? Donc il y avait des problèmes. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cela? La personnalité d'une personne ne s'achète pas. D'abord, ça vient par sa valeur. Et il faut éviter qu'il y ait d'autres discrédibilités. Voilà, ce que je pouvais dire, c'est quoi? La CENI avait organisé les élections passées. Et c'était tellement contesté par tout le monde, voire même la population et la communauté internationale. À l'invité qui est là-bas, je vais d'abord commencer à lui poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour répondre au préalable de la communauté internationale, donc de l'Union européenne, pour la restructuration de la CENI? Et je reviens encore pour dire que, quand ils ont pris, ils se précipitaient à cause de ça, pour les élections passées. Et alors, pourquoi ne peut-on pas encore se précipiter pour d'autres élections qui sont restées? Est-ce que ce n'est pas pour faire traverser les vins, la rivière, et que les autres puissent attendre la pirogue?
Merci Cosmas de votre intervention. Déjà, notre invité avait répondu à l'une de vos préoccupations concernant la restructuration ou la démission du bureau de la CENI. Mais vous allez bien sûr, cette émission sera rediffusée à 20h03 aujourd'hui. Vous pourrez écouter, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, comme notre invité déjà dans une dizaine de minutes, il doit aller dans l'agenda assez chargé aujourd'hui. Donc, à d'autres préoccupations, vous aurez une réponse de Cosmas de Kisangani. Kamate Doïcha, restez en ligne le temps que notre invité puisse répondre aux préoccupations de nos auditeurs. Je vais lire aussi ce message de René Montaigne de Goma. Il nous écrit ceci. Nous devons prendre le modèle d'autres pays africains, à l'instar du Sénégal. Toutes ces irrégularités ont pour cause une mauvaise organisation des élections. Voilà ce que nous écrit René de Montaigne de Goma.
Okapi. Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Professeur Jolie, une deuxième série d'auditeurs. Commençons par cette question de confiance. Parce qu'il est vrai qu'avec le système électoral actuel en RDC, le taux de participation vraiment n'a pas d'influence sur le résultat des élections, mais ça entache quand même la crédibilité s'il arrivait que le taux soit assez faible. Parce qu'en écoutant nos auditeurs, il y a ce manque de confiance actuellement entre les électeurs et la CENI. Qu'est-ce qui est fait en fait pour que cette confiance puisse renaître?
Merci beaucoup. Je dois d'abord dire que avant qu'on ait arrivé à ces élections de 2011, beaucoup de personnes ont dit qu'il n'y aura pas un engouement. Je crois que le point fort des élections qui viennent de se dérouler, c'est l'engouement de la population et la volonté du peuple, n'est-ce pas, de s'impliquer dans un processus de transformation de notre gouvernance politique, de gouvernance autoritaire vers une gouvernance démocratique. Ça, c'est de un. De deux, en écoutant les uns et les autres, il faut que nous puissions comprendre que la démocratisation n'est pas un événement, c'est un processus. Ce n'est pas une seule élection, c'est une expérience qu'il faut capitaliser. En 2006, nous avons commencé, nous avons fait un pas très important, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout parce qu'il n'y avait pas des élections locales et municipales qui devaient s'opérer la démocratie par la base. Nous avons pris le processus à bras le corps, dans un délai très court, d'autres ont même dit de la précipitation, d'autres ont pas de délai irréaliste. Il était important de tenir à quelque chose, c'est-à-dire faire comprendre aux Congolais que après chaque 5 ans, il faut qu'il y ait des élections et que ceux qui ne voulaient pas des élections pour nous proposer des schémas de transition, de partage de pouvoir, ce ne doit plus être possible. Il faut que nous ayons des élections, mais de bonnes élections qu'il faut organiser pendant 5 ans. On parle du Sénégal, mais l'organisation d'une élection ne commence pas 6 mois, c'est-à-dire 223 jours avant. Il faut enrôler, il faut commander le matériel, il faut former en cascade, il faut planifier, il faut déployer. Si la volonté nationale est d'avoir un état de droit démocratique, il faut que nous nous donnons les moyens politiques, les moyens budgétaires,
pendant 5 ans, rien n'a été mis dans la dotation de la CENI et on vient faire sortir l'argent à la fin pour que nous puissions avoir des élections.
Mais c'est ce qu'on risque de vivre encore parce que...
Voilà, alors, troisième chose, je crois que nous risquons encore de nous focaliser dans l'histoire de spécification de la date. Lorsque nous sommes partis de l'atelier, et Jérôme est là, nous n'avons pas dit que nous allons absolument organiser l'élection en janvier 2013. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de calendrier. Ce sont des dates plausibles en termes de planification. Et ce qui est important, c'est la résolution qui a été faite lors de l'évaluation, où on a dit que le calendrier électoral doit être élaboré en privilégiant les exigences techniques et opérationnelles dans le respect, si possible, du délai des étapes du cycle électoral et en concertation avec la classe politique et les partenaires du processus. C'est un élément important. Deuxième élément qui a été souligné lors de cet atelier, c'est que pour élaborer les calendriers et planifier, il faut maîtriser les paramètres et les éléments qui rentrent dans l'élaboration du budget électoral à vue d'en assurer une mise en œuvre adéquate. Donc, lorsque nous prenons ces deux grands agrégats, il est possible d'articuler un plan qui commence par aujourd'hui, vous avez dit que j'ai une réunion, nous allons rencontrer les partenaires internationaux pour les écouter. Aujourd'hui, les partenaires internationaux sont dans une position d'accusateur. Nous sommes heureux. Mais nous devons dire que lorsque il s'est posé ces questions de délai constitutionnel, qu'il fallait ajouter les moyens, personne ne nous a suivis. Mais ils vont nous regarder. Deuxièmement, dans l'organisation de ces élections, l'État congolais avait bien sûr 60% et les partenaires 40%. Mais les partenaires avaient aussi pris un devoir. Ils ont pris l'engagement d'assurer la sensibilisation et la formation. La sensibilisation était l'une de toutes que dans ces élections, il y a un élément déstructurant, la violence, et ni les témoins, ni les partis politiques n'étaient formés, beaucoup de gens ne comprennent pas comment voter.
C'était pas aussi une question de passion, en fait.
Non, mais la passion doit être justement maîtrisée par la formation, par l'éducation et la sensibilisation. Ce qui n'était pas fait. Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres que la date du 20 de janvier 2013, qui est une date de projection, est liée au respect par tous les partenaires, à commencer par le gouvernement, de l'acceptation d'un plan de budgétisation acceptée et à mettre en place et de la même chose pour les partenaires et pour aller à ces élections. Puisque l'élection n'est pas une opération purement technique, c'est aussi une opération éminemment politique. Donc, avec la société civile, nous avons été ensemble dans ces ateliers qui nous duraient que 10 jours, mais nous allons avoir très rapidement une concertation globale avec tous les acteurs de la société civile pour qu'on dise quels sont les problèmes qui se posent dans l'organisation des zones élections ou dans notre processus démocratique. Et nous devons aussi rencontrer très rapidement le gouvernement dès qu'il sera mis en place. Nous attendons. Nous allons rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale. De toute façon, l'Assemblée nationale, nous devons y aller au courant de cette session. Nous allons rencontrer le bureau du Sénat et nous allons rencontrer toutes les composantes de la société, les femmes, les jeunes, et ensuite rencontrer les partis politiques qui sont les premiers acteurs porteurs du processus. Lorsque vous avez les partis politiques, 450, qui, pour la plupart, ne disposent pas de structures, de moyens, et encore moins de programmes et de visions politique démocratique, vous risquez d'organiser des élections démocratiques avec des acteurs non démocratiques.
Mais néanmoins, il y a quand même des leaders, hein, des partis politiques qui sont reconnus.
Un leader n'est pas un parti politique. Voilà pourquoi la plupart de nos partis, ce sont des partis monopersonnels, à direction atomistique, et qui fonctionnent sans démocratie. On ne peut pas avoir un État démocratique sans parti démocratique. Alors, la question de la restructuration, je crois que je l'ai dit, et les membres de la CENI, à commencer par moi-même, ne sont pas stockés à l'intérité. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur qui est la nôtre dans cette organisation qu'on parle de structurer. Mais il faut rester serein. Il faut rester serein et regarder la vision. Quelle est la vision? C'est-à-dire, nous devons nous battre pour que nous puissions instaurer dans ce pays un état de droit démocratique à travers des élections transparentes. Mais c'est une œuvre commune qui existe, une remise en cause quotidien de chacun de nous pour que nous puissions arriver à cet objectif.
Le programme que vous venez de lancer, rencontrer toutes les forces vives de la société civile, de toute la société congolaise, des partis politiques, les femmes, ça va prendre combien de temps? Parce qu'il y a aussi cette question de légitimité de certaines institutions. Quand ça va prendre combien de temps?
Mais c'est justement le paramètre. Vous voulez qu'on prenne le temps. Mais il y a des impératifs de légitimité. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec une assemblée nationale, qu'on le veuille ou non. J'ai entendu notre ami de Kisangani parler des gens qui ne se retrouvent pas. Je voudrais qu'ils me disent que M. Awenze n'a pas été élu. Je voudrais que chacun dise dans son qu'il y a bien sûr les gens. Et c'est bien d'avoir souligné par quelqu'un que ce qui s'est passé dans les 16 serres, nous en sommes conscients. Les 16 serres étaient constituées comme des unités autonome, technique, décentralisée, pour nous produire des résultats que les CCSF devaient afficher. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Beaucoup de jeunes gens qui ont été recrutés après, n'est-ce pas, les tests, étaient liés à des partis politiques. Donc, c'est temporaire, ils ont posé des problèmes. Bien, et par ailleurs, les comportements des acteurs politiques, la corruption, la fraude, ce n'est pas la CENI, c'est les acteurs politiques.
Ce n'est pas la CENI qui a mis dans la loi, on punit et les corrompus et les corrupteurs.
Oui, mais ces gens étaient punis. Je crois que beaucoup, vous avez
les corrupteurs, les corrompus n'ont pas été punis.
Oui, nous avons mis, nous avons annulé cette circonscription et nous avons passé sur la Cour suprême en tant que maître du contentieux électoral, mais le procureur général pour qu'il y ait des poursuites, pour ceux qui ont utilisé la violence. Il y a des gens qui se sont attaqués au bureau de vote pour aller taper les agents électoraux et bourrer les yeux. Ces gens sont transcendés devant la justice. Et nous croyons que le procureur général va le faire. Il y a eu à Rutshuru des condamnations, à Mbujimayi, il y a des gens qui sont devant la justice pour traficotage, n'est-ce pas, de données en matière électorale. Donc, il est important que nous puissions tous savoir qu'est-ce que nous voulons. Si nous voulons des élections de pacotille pour justifier toujours la conservation du pouvoir, eh bien, on aura des élections. Mais si on veut des élections, il faudra que nous nous retrouvions dans une forme de conférence nationale sur les élections pour dire quelles élections nous voulons, avec quels moyens. Est-ce que c'est normal que nous puissions faire le monde auprès de la communauté internationale qui après va commencer à vous donner des dictats pour dire « je ne veux pas la tête de tel ou de tel ». C'est une question de souveraineté qu'il faut assumer et ça, c'est un débat qu'il faut voir au niveau national, il va commencer à l'Assemblée nationale et nous y tenons.
Et en conclusion, parce que là nous n'avons plus beaucoup de temps, le temps que vous avez accordé, une cinquantaine de minutes, et nous allons nous excuser auprès de Kamaté Confiance et Bernard Béat. Il faudrait, là vous nous dites que vous poursuivez. Bon, nous allons écouter cette deuxième série d'auditeurs. Restez branchés bien sûr sur Radio Capio. Bon, aujourd'hui nous parlons du processus électoral, surtout de cette déclaration du président de la CENI qui a annoncé la semaine dernière au cours de son discours concernant la clôture de la télévision. D'évaluation à mi-parcours des activités de la CENI, a annoncé que les élections provinciales pourront se tenir en fin janvier 2013.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Kamaté. Kamaté, vous êtes à Oïtia, bonjour.
Oui, bonjour madame Marie-Chantal Lunda. Je viens de suivre là le vice-président de la Commission nationale électorale indépendante. Et à le suivre, c'est comme s'il était en train de défendre une thèse. Madame, je crois pour le moment, la population congolaise n'est plus une population qui peut accepter n'importe quoi. C'est à nous, population, de dire, Commission nationale, vous aviez échoué. Et si réellement cette commission est là pour écouter la population, il faut qu'elle puisse démissionner facilement. Je vais donner des petits exemples, madame, au niveau de la province de Kivu. Dernièrement, il y a le gouverneur de province que je respecte beaucoup qui s'est présenté ici, et au cours de son point de presse, il a dit « Voilà, je suis là, c'est parce qu'à un moment, il dit encore le bonus. » Madame, je dis, l'on ne peut pas appeler le pouvoir du peuple bonus. Le mandat que le peuple vous donne n'est pas à confondre au bonus. Donc, pour le moment, nous ne pouvons plus accepter n'importe quoi. Et je me pose la question, le pasteur Ngoï Mulunga continue-t-il encore à se rendre en Église?
S'il vous plaît, dépassionner le débat. Aujourd'hui, nous parlons de cette annonce. Vous avez expliqué, vous avez dit ce que vous pensez, mais vous savez très bien qu'il y a une procédure en cours. Ce n'est pas d'un coup, en claquant les doigts, que directement il y a des choses qui peuvent se faire. Vous savez qu'il y a toute une procédure concernant que ce soit la restructuration d'un bureau, que ce soit la démission des membres, que ce soit même la reprise de confiance des populations envers une structure, c'est tout un processus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous organisons cette émission pour savoir ce que vous pensez, c'est vrai, mais allons au-delà de ce que vous êtes en train de dire, parce que là, on a l'impression que vraiment vous êtes hors de vous. Tamaki, vous avez autre chose à dire?
Oui, madame, je voulais ajouter ce que je suis. Sur des choses qui n'ont pas marché, que tous ensemble admettons que les corrections nous sont données. Et si nous avons cette scrote, cette fois-ci, nous allons améliorer davantage, alors à ce point que la prolongation soit faite. Mais sinon, le pays est en train d'être reconnu de nouveau basé dans le bourbier, madame.
Merci, Kamate Doïch, de votre intervention. Confiance, je vous souhaite. Ça, bonjour.
Bonjour Marie Chantal, bonjour Radio Capi, bonjour Professeur Angeli.
Oui, nous vous écoutons.
Je suis vraiment content que le professeur soit là et je préfère parler comme quelqu'un qui a participé à l'évolution. Moi je pense, avant de poser une question au vice-président, je voulais faire une observation. Moi je pense que si on ne change pas l'équipe qui gagne, à quoi servirait d'accepter encore que ceux qui se reprochent d'avoir été moins performants continuent à faire encore un travail pour lequel ils vont encore échouer. En fait, personnellement, je suis content que le professeur ait reconnu tacitement qu'ils n'ont pas fait un bon travail. La CENI, où on travaille toujours en mode d'urgence et sous pression, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les mêmes choses, la même façon de travailler n'a pas été dans le résultat. Si par orgueil, moi je pense que si on est buté à une difficulté, même si on vous confie un travail, vous vous rendez compte que le temps est pressant, vous ne saurez pas faire ce travail-là, vous n'avez pas le moyen de faire ce travail-là. Pourquoi accepter? Pourquoi ne pas dire non, moi je ne fais pas ça parce que le temps qui m'a imparti ne suffira pas, je risque de faire un travail bâclé par honneur, je ne voudrais pas accepter ce type de travail. Moi je suis un peu écœuré de voir que le même bureau qui a prétendu avoir reçu tout l'argent nécessaire à l'organisation des élections, à moins que ce soit des déclarations politiques, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que sur les 350 millions, selon les dires du professeur toujours, que les autorités soient incapables de payer les fiscs et les frais d'émission des 189 administrateurs. Il a parlé de CELCR. Je suis content qu'il ait parlé de CELCR et des frais qu'ils ont envoyés comme personne là-bas. C'est vraiment sidérant de voir que sur les 350 millions reçus, on a été incapable de payer un seul petit million, c'est-à-dire un 350e morceau du gâteau aux gens qui ont donné les résultats. Par Vessat ou par quel moyen, les résultats qu'ils ont exploités aujourd'hui. Madame, en tout cas, ça fait vraiment mal. Moi, je pense que par honneur, le bureau devrait démissionner. On ne doit pas attendre qu'on vous pousse à vous. Le professeur Papa, pendant que je suis là, je pose maintenant la question. Pourquoi on n'a pas payé les administrateurs? Aujourd'hui, on pose un problème de budget et de l'argent qui reste. Mais l'argent qu'on a eu avant, pourquoi on n'a pas payé les frais d'émission des administrateurs CNCR? Pourquoi il y a des bureaux qui n'ont pas encore été payés? Pourquoi il y a des policiers qui n'ont pas été payés? Avec tout ce que nous avons eu comme risque.
Merci, confiance de votre intervention. Bernard, vous n'avez qu'une minute avant que le professeur ne puisse répondre aux préoccupations, bien sûr, avant le bulletin d'information qui va intervenir dans 4 minutes. Bernard, bonjour.
Bonjour madame. Oui, voilà, rapidement, je voudrais tout simplement rappeler le professeur de l'état de cette circonscription qui ne sont pas représentés à l'Assemblée et qui font que l'Assemblée voulue nationale soit aujourd'hui partielle. L'article 2 de la loi donne devoir à la CENI de veiller à la régularité du scrutin. Aujourd'hui, la CENI a proposé l'annulation au niveau de cette circonscription, au niveau de la Cour suprême.
que va-t-il arriver si la Cour suprême contredit la CENI? En ce moment-là, obligeant probablement la CENI à proclamer le résultat déjà déclaré irrégulier par la CENI. Allons-nous aller au contentieux? Est-ce que ce ne sera pas une nouvelle crise? Parce qu'en ce moment-là, on risque d'ouvrir un contentieux sur le résultat déjà reconnu irrégulier par l'organe organisateur. Alors, je voudrais que le professeur me dise que va-t-il se passer si la Cour suprême arrive à contredire la CENI.
Qu'est-ce qui va se passer? Merci, Bernard Béa. Je vous écoute à Kinshasa. Professeur, pouvez-vous répondre aux avis de nos auditeurs?
Merci beaucoup. Encore une fois, je vais dire aux amis qu'il faut que le droit, la raison, soit toujours dominateur par rapport à l'émotion et la passion. Mmh. Il faut toujours faire l'analyse à la fois culturelle et événementielle. Je comprends que le droit de vote, c'est le droit le plus important de l'homme. C'est le droit du pouvoir. C'est lui qui décide de l'avenir et l'avenir de ses enfants. Et lorsqu'on a l'impression que ce droit-là n'a pas été pris en compte, qu'on soit révolté. Il faut intégrer la dimension temps qui a déstructuré et qui ne nous a pas permis, n'est-ce pas, de faire le travail. C'était un défi, je vais revenir. Alors, je prie le cas de Kamate. Je crois qu'il doit remercier la CENI d'organiser les élections dans une zone aussi troublée avec ses frères Mai Mai qui attaquent les bureaux de vote à tout moment et qu'il y ait des élections dans cet environnement. Et lorsque quelqu'un vient dire qu'il a un bonus, ce n'est pas la CENI qui dit qu'il a donné un bonus, c'est la personne
qui s'engage de lui-même. Il concerne les bureaux, les agents qui n'ont pas encore été payés.
Il concerne les agents qui sont payés. Notre ami qui est administrateur sait que la procédure de paye des agents, c'était par le projet qui passe et qu'il y a une procédure. Ils sont allés, on leur a donné une partie, la deuxième partie est liée à un certain nombre de préalables administratifs et ils seront payés. Ils ont pris des risques, ils ont aussi créé des risques, donc il faut qu'ils soient patients. Alors,
pour les territoires,
je voudrais dire à notre ami que la CENI ne proclame que des résultats provisoires. Pour les sept territoires, c'était une décision d'ordre administratif qui constatait notre impossibilité de faire proclamer ces résultats. Mais si la Cour, dans sa souveraineté, estime que ces résultats sont valides, parce que c'est la Cour qui proclame les résultats définitifs, eh bien la CENI s'appuiera à la volonté de la Cour.
Je vous invite à suivre notre bulletin d'information qui intervient dans quelques secondes.
Radio Okapi est aussi avec vous sur La Solution, en direct avec toute l'équipe de Parole aux Auditeurs. Parole aux Auditeurs, parler, nous transmettons, proposer, nous discutons. Parole aux Auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Nous poursuivons Parole aux Auditeurs, deuxième partie comme chaque mercredi. Aujourd'hui, nous parlons de cette annonce du président de la CENI, le pasteur Mbouyimulunda, qui a annoncé lors de la clôture de l'atelier d'évaluation à mi-parcours des activités de la CENI, il a annoncé que les élections provinciales se tiendront en fin janvier 2013. La question centrale, que pensez-vous de cette déclaration? Nous avons eu comme invité le professeur Jacqueline Joly, qui est vice-président de la CENI. Il vient à peine de quitter nos studios pour se rendre à une réunion avec les membres du gouvernement et les partenaires étrangers concernant le processus électoral. Il s'en excuse beaucoup. Nous a promis que prochainement nous allons organiser notre émission parce que nous avons vraiment senti que les auditeurs ont des préoccupations, ils ont des suggestions, ils ont aussi des avis à pouvoir émettre concernant le processus électoral, surtout la suite du processus électoral. Entre temps, nous poursuivons cette émission. Il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de cette émission. Et nous avons déjà M. Emery Okundji qui est à Kinshasa. Bonjour, M. Okundji.
Bonjour, madame.
Vous êtes député national, vous avez été réélu. Vous, que pensez-vous de cette annonce du président de la CENI concernant l'organisation des élections en fin 2013? Je rappelle que vous êtes membre d'un parti politique qui a une tendance à l'opposition.
Tout à fait, madame. Je crois que c'est le le président François Mitterrand qui disait qu'il n'y a pas d'avenir sûr sans la lumière du passé. Nous devons d'abord voir clair sur ce qui s'est passé avant même de projeter un nouveau calendrier, madame. C'est bien beau d'incriminer les acteurs politiques, l'immaturité des acteurs politiques, des partis politiques qui ne sont pas démocratiques. Mais si l'on met tout dans une balance, madame, vous remarquerez que la balance penche beaucoup plus du côté de la CENI que du côté des acteurs politiques qui participent à la compétition électorale. Qu'avons-nous vu dans ces élections, madame? D'abord, la première chose, c'est l'opacité au niveau du fichier électoral. Le refus de voir clair dans le fichier électoral était déjà un signe avant-coureur d'une tricherie planifiée. Deuxième chose que l'on a dû remarquer, c'est l'inféodation même de la CENI, madame. Des gens qui n'avaient rien à voir avec la CENI et qui se sont improvisés à la CENI. Mais moi, j'espère qu'avec l'autorisation quand même des responsables de la CENI. Et troisième chose, madame, il y a eu une conduite que je dirais, que je qualifierais, une conduite artisanale du processus électoral. Vous aviez vu vous-même dans quelles conditions on ramassait les plis, les colis, les stockages des colis et ce qui a été comme travail au niveau de cette serre. Quatrième chose, madame, la violation intentionnelle et tempestive de la loi par les agents de la CENI, je dis bien, madame. Et cela a été manifeste au niveau du bureau de vote. L'article 47, par exemple, l'article 70 au niveau des CFR, de la loi électorale, et la gestion. La gestion, vous savez que c'est l'État congolais qui finance, qui a financé la grande partie, sans oublier la communauté internationale aussi, qui a financé ce processus, il y a une gestion peu orthodoxe. Donc nous ne pouvons pas balayer tout ça là d'un revers de la main pour dire que non, il y a un nouveau calendrier, au mois de janvier, nous devons aller aux élections. Non.
Oui, si vous permettez, M. Okundi, vous préconisez en fait qu'on puisse organiser une audit de l'Assemblée, de la CENI. Cela se fera, nous l'espérons, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, parce que la CENI ne peut, dans son règlement intérieur, dans la loi portant organisation de la CENI a obligation de pouvoir faire une évaluation de ses activités devant le Parlement. Donc nous espérons que vous allez vraiment être très regardant lors de cette plénière, lors de cette séance où la CENI devra bien sûr expliquer, dire ce qu'elle a fait de tout.
Nous espérons que la CENI va déposer ce rapport au niveau de l'Assemblée. C'est mon souhait le plus ardent au niveau de l'Assemblée nationale.
Oui, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, parce que vous avez énuméré toutes ces irrégularités, nous avons eu le vice-président de la CENI qui entend organiser, rencontrer toutes les forces vives, les partis politiques, les femmes, et toutes les parties qui participent dans le processus électoral, pour décrisper, si on peut dire, ce contexte politique assez difficile. Et qu'est-ce que vous proposez pour décrisper la situation et que le processus puisse poursuivre?
Madame, moi je dis qu'il faut qu'on évite des raccourcis. Je crois que, comme vous l'aviez souligné, la CENI a l'obligation de venir déposer son rapport et le présenter devant la représentation nationale. Il faudrait que l'on commence par là, pour que le peuple congolais, les citoyens, les citoyennes, sachent comment le processus s'est déroulé. Donc, raconter personnellement, c'est bon, mais moi je trouve ça, j'appellerais ça des raccourcis. Il faudrait aussi, même l'auto-évaluation là, madame, l'auto-évaluation c'est bien bon, mais ça c'est interne à la CENI. Il faudrait que la CENI se conforme aux lois, aux normes, aux règles et aux repères de la République, c'est-à-dire, à ce moment précis, c'est de venir déposer son rapport de gestion à l'Assemblée nationale et de défendre ces rapports-là devant la représentation nationale. Et je souhaite qu'il y ait un débat citoyen, un débat républicain, un débat démocratique pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. On a donné l'argent du contribuable congolais. Comment cet argent a été géré, madame? On parle de l'organisation, mais il n'y a pas d'organisation sans les hommes compétents pour assurer cette organisation.
Merci beaucoup, monsieur Okundi. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention. Et en écoutant tous nos auditeurs depuis le début public cette émission. Alors, en tout cas, la plupart attend cette plénière où la CENI devra expliquer ses actions, ses activités devant le Parlement, notamment devant l'Assemblée nationale. Nous savons que cela a pris aussi beaucoup de temps du fait qu'il fallait installer le nouveau bureau. Maintenant qu'il y a le nouveau bureau, qu'on va installer les groupes permanents. Donc, tout est en place. Nous espérons que prochainement, nous aurons plus de nouvelles concernant cette plénière où la CENI sera face à la représentation nationale. Nous allons écouter Eric qui se trouve à Goma. Mais entre-temps, Eric, quelques secondes de temps pour moi de lire aussi quelques avis de nos auditeurs qui ont posté leurs réactions sur la page Facebook ou écrit à travers pa@radiocapi.net. Il y a ce premier auditeur qui nous écrit ceci, Fabrice Mugunja, repousser les élections pour janvier 2013 en gardant les institutions obsolètes et légitimes, c'est une folie de grandeur qui attaque, qui attrape le bureau de la CENI. Celle-ci va au-delà de son pouvoir et il estime que ainsi la CENI se moque du peuple. Nous avons aussi deux données irradiées pacifiques qui nous écrivent ceci. Cela est dû à l'impréparation et aux irrégularités constatées lors de l'élection présidentielle de novembre 2011. Il y a notre auditeur Johnson Alain. Je demande au peuple congolais d'être vigilant. Avis partagé aussi par Ignace Kikala de Lubumbashi. Calva Makoto de Goma, ça c'est marcher une fois de plus sur la constitution votée par le souverain primaire et qui prévoit un mandat de 5 ans de législature. Les assemblées provinciales ont perdu leur légitimité. Sur ce, le bureau de la CENI doit démissionner car n'ayant pas été à la hauteur du travail dont il a été institué. Il y a également Christophe Mugisso. La CENI organise des élections pas pour les Congolais et les Congolais sont restés insatisfaits jusqu'à la nouvelle législature de 2016. C'est ce qu'estime Christophe. C'est l'avis partagé par Pascal qui se trouve à Cape Town en Afrique du Sud. Il y a aussi Enoch de Béni. Sauf que le gouvernement n'a pas pu verser une somme conséquente à l'organisation du dit événement, en jetant un coup d'œil dans la Constitution, nous dirons donc que la CENI veut effectivement violer certains articles. De ce fait, pas question de reporter les élections, car la seule idée instaurée dans la conscience des Congolais, c'est de voir des élections bien se dérouler. Éry de Goma, vous avez la parole.
Bonjour madame, j'ai suivi les députés de l'émission, seulement que je suis le moins chanté du fait que je n'ai plus le temps de poser mes certaines questions au professeur qui était sur l'antenne de la radio au 4 mai du mois. Ce qui me revient, moi, le plus, c'est de. En fait, que la mise en place de la CENI, c'était un processus, c'était quelque chose qui a été convenu entre la majorité et l'opposition. Je ne comprends pas pourquoi, parce que personnellement, je n'entends plus rien de cette CENI prochainement.
Vous n'avez plus confiance à l'organisation des élections. Merci, Eri de Goma. Il y a également Benjamin Barati qui nous écrit ceci. Voilà les conséquences auxquelles la RDC se heurte après le départ de l'abbé Malumalu, qu'on a jugé incompétent. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons merci aux auditeurs qui sont intervenus, ceux qui nous ont suivis avec attention. Également, nous remercions le vice-président de la CENI qui nous a accordé une cinquantaine de minutes, mais il a promis que prochainement, il sera avec nous tout le long de l'émission parce que nous avons senti que les auditeurs ont vraiment des préoccupations concernant le processus électoral. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
Et demain, nous allons échanger sur le mécanisme de paie des fonctionnaires de l'État. souvent des difficultés sont rencontrées lors de la paie des fonctionnaires de l'État, le retard dans le paiement, les agents et fonctionnaires qui sont omis sur les listes de paie, des billets impropres à la consommation, des liasses de billets avec plusieurs manquants, voilà autant de difficultés. La question au centre de l'émission de demain, que proposez-vous pour améliorer le mécanisme de paie des fonctionnaires de l'État? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocertif.net ou encore en postant votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe Parole aux auditeurs, Kim Poutou, Péro et la Mégie, Eric Tessidiakala, sans oublier Nicole Ngata. Moi, Marie-Chantal Lumba, je vous souhaite une bonne journée et entre-temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes. Thank you.